L'accueil des réfugiés en Dordogne, réalisé par Élie Ferrer, Lucien Bondonneau et Louis Toulmont.
Depuis l'été 2015, l'expansion des flux migratoires devient un sujet de société majeur. Face aux situations complexes telles que la jungle de Calais, l'État doit chercher des solutions qui impactent l'ensemble du territoire français. Cette problématique est relayée massivement par les médias qui nous renseignent sur la situation générale des migrants. Elle semble pourtant invisible depuis le Sarladé où nous vivons. Pour en savoir plus, nous avons décidé de nous interroger sur les répercussions et les initiatives qui se sont développées en Dordogne. Nous sommes donc allés à Périgueux et Bergerac avec cette question : quel accueil pour les demandeurs d'asile en Dordogne ? Nous sommes le 26 novembre 2018. Arrivé au centre d'accueil de demandeurs d'asile de Périgueux, Marion Bizek nous reçoit, puis nous fait un rapide tour des lieux. Elle évoque aussi certaines missions développées par cette CADA : aide psychologique, cours de français et cours d'informatique. Une semaine plus tard, le 3 décembre, nous nous rendons cette fois-ci à Bergerac, au centre d'accueil et d'orientation. Nous y rencontrons Serge Branco qui nous fait visiter l'ancien complexe militaire qui fait maintenant office de locaux et d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Au cours de ces entretiens, nos interlocuteurs nous font part de leurs activités et des problèmes qu'ils rencontrent.
Alors, je m'appelle Marion Bizek, je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai fait ma formation au CEFPROC de Bergerac et avant ça, j'ai fait une licence en sociologie à Bordeaux. J'ai travaillé auprès de divers publics, j'ai travaillé aussi bien en psychiatrie qu'auprès des enfants, en MEX, etc. Et en fait, c'est une opportunité de poste ici qui m'a permis d'aborder la question de la migration et de travailler avec les demandeurs d'asile. C'est plus une opportunité qu'un choix professionnel, même si je pense qu'on bosse aussi là-dedans par conviction. Moi, au niveau de mon travail, c'est de l'accompagnement social global auprès des familles et aussi accompagnement juridique. À savoir qu'on n'accompagne pas les mêmes personnes en social et en juridique. On a pris le parti dans notre établissement qui est deux intervenants sociaux par famille. Donc un qui va faire toute la partie administrative, sociale, scolarité, santé, voilà, tout ce qu'on pourrait attendre d'un travailleur social. Et un autre intervenant qui fait tout ce qui est accompagnement au niveau de la demande d'asile, des recours, des liens, des explications, etc. On ne les accompagne pas dans tout, ouais. Parce que je pense que notre politique, c'est avant tout l'autonomie des personnes.
Ouais.
Dans l'accompagnement social, bien sûr, on va être très présent, surtout au début, quand ils arrivent ici à Périgueux, pour leur faire connaître le secteur, pour leur faire connaître les institutions, pour aussi prendre le relais au niveau administratif et éclaircir les choses. Après, les accompagnements se font vraiment au cas par cas, il n'y a rien de type. Aucun accompagnement n'est vraiment égal
ça
à un autre.
Ouais.
Ça s'adapte. Exactement. Et c'est surtout. Des fois, c'est des rendez-vous. On va aussi au domicile, faire des visites à domicile. Parce qu'on a la responsabilité des logements. Nous, on est.
Locataires.
Ouais. Et eux, ils sont hébergés. Donc, du coup. Il faut qu'on vérifie à l'entretien des logements. On gère pas mal les problèmes de voisinage, s'il doit y en avoir.
Ouais.
On doit veiller
dans le logement,
ouais, dans le logement à ce que tout soit bien maintenu, etc. Et puis même des questions, des choses toutes bêtes que nous, on n'y pense pas, mais une machine à laver, nous, on sait la fonctionner, mais expliquer comment fonctionne une machine à laver pour des personnes qui arrivent d'Afghanistan, c'est pas déconnant, quoi, parce qu'ils savent pas. Donc, voilà, dans le quotidien, on est sur ça, et après, ici, ils peuvent venir de façon assez libre et sans rendez-vous tous les matins. C'est les matins, en général, où c'est ouvert, la porte est ouverte, il n'y a pas de problème. On est dans notre bureau, ils viennent nous voir, il n'y a pas de souci. On a été le seul CADA ici de Périgueux et même de la Dordogne,
oui.
Pendant près de 12 ans.
Ouais.
Et de par les politiques et leurs demandes, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y avait eu, c'était à La Chapelle, où il y avait tant de migrants que ça et qu'il fallait déloger. Non, c'était Calais. Ça a commencé à Calais, oui, quand ils ont, en fait, quand il a fallu déloger les camps de Calais, l'État a demandé. Il a demandé à ce que les gens soient dispatchés dans les différentes régions de France et à ce que de nouvelles places soient ouvertes pour les accueillir en CADA. Et on va dire qu'il a mis le fric là-dedans pour aussi ouvrir ces places. Et du coup, il y a deux associations ici. Il y a eu un appel à projet en fait en Dordogne pour ouvrir de nouveaux centres et de nouvelles places. Et il y a deux autres associations qui sont l'ASD et la PAR qui ont répondu à cet appel à projet et qui ont ouvert des CADA. Ouais, donc en fait on était un CADA, on est passé à 3, et eux ils accueillent 100 et quelques personnes à eux deux réunis.
Je crois que c'est à peu près 80 chacun, je me sens à peu près, hein. En fait quand ils rentrent quand ils arrivent au CADA dans notre structure, ils doivent signer en fait déjà un contrat d'accueil.
D'accord.
Et donc ils doivent respecter justement des conditions en fait pour être accueillis dans notre structure.
Et il y a un règlement intérieur aussi, voilà, à respecter.
Donc, en effet, par exemple, les personnes doivent venir une fois par semaine pour chercher leur courrier.
Et puis la nouvelle loi qui est passée récemment aussi...
Qui sera en vigueur en janvier, oui.
C'est ça. Mm. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Ouais.
Ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer surtout que les gens, on ne va plus leur laisser le temps de rien. Et en fait... c'est des personnes qui sont dans une très grande fragilité, comme on peut l'imaginer, de par déjà ce qu'ils ont vécu.
C'est sûr.
Ensuite, il faut fuir. Les conditions de fuite, certains pays par lesquels ils passent sont aussi traumatiques que le pays de départ, voire même peut-être plus parfois, je ne saurais pas dire, mais bon. En tout cas, ce qu'il faut retenir, je crois, c'est qu'on ne part jamais pour rien et jamais par plaisir non plus. Et quand on se déracine et qu'on sait que pour toujours, on ne pourra jamais revenir dans son pays d'accueil si jamais on est à l'asile, on y réfléchit à deux fois et on ne fait pas ça comme ça, je pense.
Disons que par exemple, donc pour une demande d'asile, ils font d'abord une demande d'asile et ils passent devant l'Office français de protection pour les réfugiés et les apatrides, l'OFPRA. Et donc si à ce moment-là c'est négatif pour eux, ils ont droit à faire un recours à la Cour nationale du droit d'asile. Mmh. Et en fait, pour les personnes qui veulent faire un recours, là il y avait un délai qui était assez important, qu'on pouvait suspendre avec la demande d'un avocat en aide juridictionnelle, un avocat gratuit. Et là, du coup, ça allera beaucoup plus vite. Donc pour nous qui sommes au courant et qui accompagnons les personnes, ça va aller pour les personnes.
Parce qu'on peut calculer les délais, parce qu'on peut être réactif, etc. Mais les personnes seules...
Les personnes qui sont toutes seules,
se pose la question.
Qui ont aucun accompagnement social, parce qu'il n'y a que 30% des personnes, des demandeurs d'asile en France qui ont la chance d'être en CADA.
Ouais.
Donc les autres... voilà.
Ouais.
Et après, ce que ça change aussi, c'est que l'OFPRA a décidé qu'une personne qui a déposé l'asile, très vite va être convoquée, très vite va avoir sa réponse, très vite va être reconvoquée s'il y a un recours. Donc en fait, tout fait que ça va très 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 vite. Donc les gens, en fait, ils se retrouvent à devoir exposer leur vie à des gens où ils savent pas où ils sont, ils comprennent pas ce qui se passe, il peut y avoir des problématiques de santé, ils ont même pas eu le temps de se soigner ou de voir un médecin ou quoi que ce soit, ils sont convoqués ou... c'est ça, c'est qu'en fait, ils doivent arriver, ils doivent monter patte blanche et prouver tout de suite, alors qu'ils n'ont pas le temps de connaître un peu le système, etc. Donc c'est en ça que c'est assez inquiétant.
Et ce qui est inquiétant aussi, c'est pour je sais pas si vous avez entendu parler des pays d'origine sûre par rapport aux autres pays. Donc, alors, je ne les ai pas tous en tête, mais notamment, il y a l'Albanie, le Kosovo, il y a la Chine, je crois. La Chine en fait partie, l'Inde en fait partie. Alors, ce n'est pas forcément des pays... c'est soi-disant des pays d'origine sûre, même si les personnes viennent quand même pour déposer une demande d'asile, notamment l'Albanie. Il y a quand même beaucoup de demandeurs d'asile albanais. Et en fait, donc pour ces demandeurs d'asile-là, à partir de janvier, et ben, en fait, à partir du moment où ils auront une réponse négative à l'OFPRA, pour leur demande de recours, pendant leur demande de recours, ils sont protégés. On ne peut pas les renvoyer dans leur pays. Et là, en fait, on pourra les renvoyer dans leur pays. On pourra leur
alors qu'ils n'ont pas fini d'aller jusqu'au bout de la demande d'asile. Et de... voilà. Mais déjà, depuis la réforme de... Il y a déjà eu une première réforme qui a fait que ces personnes arrivant de pays d'origine sûre, leur dossier de demande d'asile va être traité beaucoup plus rapidement. Ils n'ont que 15 jours de délai comparé à d'autres. Enfin, bon, ça va déjà beaucoup plus vite. C'est ce qu'on appelle la procédure accélérée. Il y a des personnes qui sont en procédure normale et d'autres en procédure accélérée. Et voilà, c'est l'OFPRA qui a établi une liste de 10 pays qui sont considérés d'origine sûre. On peut faire une demande d'asile, comme disait Marie, mais
plus rapidement.
Ça ne sera pas traité pareil. C'est, après tout ce qu'ils ont vécu, nous, on voit, on travaille avec les gens, leurs récits et notamment l'entretien à l'OFPRA. Nous, moi, je vois un monsieur que j'ai accompagné il y a peu. Il m'a fallu 4h30, 5h pour qu'il puisse... un peu dire des choses un peu plus profondes que son récit assez linéaire. Ouais. Et qui parle vraiment des traumatismes. Il m'a fallu 5 heures. L'OFPRA ne va pas mettre 5 heures. L'OFPRA, en une heure, elle va plier son dossier. Donc, nous, ils ont, on va dire, la chance qu'on ait préparé les choses. Donc, on leur dit, ayez bien en tête que l'OFPRA peut avoir ça. Donc, il va falloir dire... On se dit qu'ils ont déjà commencé à nous dire quelque chose à nous et qu'à l'OFPRA, ça sera plus facile pour dire. Mais parce que nous, on les accompagne. Moi, c'est juste en ça, prendre en compte l'OFPRA, la question du traumatisme.
On augmente le nombre de suivis. Voilà. Ouais. Du coup, on a moins de temps aussi pour accompagner les gens, pour les aider. Donc, ben, plus ça va aller et plus ça va augmenter cette charge de travail, on pense. Ouais. Donc moi, on aura temps en fait pour faire du qualitatif.
Ouais.
Donc ça sera donc ça sera au détriment des personnes.
Oui. D'accord. 135 personnes sont accueillies ici. 135, c'est adultes et enfants confondus. On a 135 places. Après l'État, de façon générale, au niveau des CADA, je trouve qu'on est quand même encore pas trop mal loti. Ouais. Voilà. On a quand même du budget pour des interprètes, on a quand même un pour 15, ça va, c'est compliqué mais ça va.
Ouais.
On arrive à gérer 15 personnes, à gérer, j'aime pas ça, mais à accompagner.
Oui.
Mais on voit que si tout s'accélère comme le veut l'État, il va falloir faire autre chose là, parce qu'à un moment ça va craquer et ça va pas être tenable. Les moyens, ils sont à mettre dans, je pense, après le CADA, avant le CADA. Ce qui s'est passé à Calais, on démantèle le truc, ouais, et on en fait quoi de ces gens-là, quoi.
Ouais, ça.
Vite, on ouvre des places, on ouvre vite, ouais. Et après, parce qu'à Calais, je suis sûre qu'on y va, il y en a encore. Hein. Moi, je sais pas, mais... Et on parle de Calais, mais on peut juste aller à Bordeaux, hein. Il y en a combien qui sont dehors ou à l'hôtel, hein, par le 115. Après, de la migration et des migrants, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Nos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents, ils sont peut-être arabes, ils sont peut-être italiens, ils sont peut-être espagnols. Il y a toujours eu de la migration. On est un pays d'accueil, mais aussi on a été un pays migrant, donc... Et on a eu besoin aussi des migrants pour reconstruire la France, mais ça, on oublie un peu des fois que la migration, on y a fait beaucoup appel pour faire des guerres, non, moi je pense pas qu'on ait envahi de migrants aujourd'hui, quoi, comme on l'entend dire, et on a les moyens en France de pouvoir absorber cette migration-là, il faut juste voir comment on fait, quoi.
Je regarde mon frère qui contemple les orangers, le fouillis des voitures et la foule des passants, et je sais ce qu'il pense. Il boit son thé sans quitter des yeux cette place qu'il ne verra plus. Il essaie de tout enregistrer. Oui, je sais ce qu'il pense, et je fais comme lui. Immobile, je laisse les bruits et les odeurs m'envahir. Nous ne reviendrons plus jamais. Nous allons quitter les rues de notre vie. nous n'achèterons plus rien, jamais, aux marchands de cette rue. Nous ne boirons plus de thé ici. Ces visages bientôt se brouilleront et deviendront incertains dans notre mémoire. Je contemple mon frère qui regarde la place. Le soleil se couche doucement. J'ai 25 ans.
D'un point de vue de l'association, moi je représente l'association en général avec eux, puisque c'est moi qui participe à organiser la prise en charge et l'accompagnement auprès de l'équipe que vous avez vue partiellement. Et donc je les rencontre régulièrement, notamment pour tout ce qui est du côté administratif, du côté de l'accueil, de l'organisation concrète, de la signature des contrats de séjour, et aussi de ce qui est important, de tout ce qui est du côté du règlement de fonctionnement de l'établissement. Donc en gros, je suis garant, on va dire, du respect des règles de fonctionnement. Et je les rencontre peu dans leur accompagnement parce que c'est pas dans mes missions de départ, mais je les rencontre quand il y a des problèmes, des soucis qui vont pas, quand par exemple des gens qui s'alcoolisent dans leur chambre, quand il y a des violences, quand il y a des dégradations, voilà, je les vois beaucoup quand ça va pas, de façon officielle, mais je les vois souvent quand tout va bien, à travers le partage d'un repas, prendre un thé chez eux puisqu'ils sont chez eux dans des logements, ou discuter un moment dans la cour, voilà, c'est pas...
Oui, vous êtes assez proche.
Je suis assez proche d'eux, mais à deux niveaux différents, on va dire, voilà.
Ouais,
donc je peux être un peu le père fouettard, mais parce que c'est la vie collective, et que la vie collective, vous savez ce que c'est, si vous êtes lycéen, il y a des règlements, et il y a des moments où il faut bien qu'on rappelle le cadre un petit peu long, voilà. Mais par exemple, les règles, c'est que toute personne qui est accueillie sur le CPH ou le CAO s'engage à respecter les autres personnes accueillies, mais c'est aussi s'engager à tout mettre en œuvre pour faciliter aussi l'accompagnement, parce que c'est pour eux qu'on fait qu'il y a des démarches administratives ou autres. Donc ils doivent honorer les rendez-vous qu'ils ont à la préfecture, qu'ils ont à Pôle emploi, ou à la mission locale, ou au restaurant du cœur, des choses comme ça. Et puis aussi, tout ce qui est d'ordre de respecter les lieux aussi, qu'on met à leur disposition. C'est-à-dire pas dégrader... Il y avait un monsieur, il y a quelques temps, qui avait tagué sa chambre avec des peintures fluo. Et donc, avec une éducatrice spécialisée, il a repeint sa chambre. Bon, c'est pas non plus une grande torture, mais c'est on dégrade, on répare. Hein, c'est l'idée de la sanction éducative. C'est pas bête et méchant. Mais ça, c'est moi qui le pose. Pour que ça ait du sens aussi. On vous accueille, mais vous devez respecter ce à quoi vous vous êtes engagé. Parce que l'insertion, elle passe aussi par ça, par l'engagement de la parole qu'on peut donner. Hein. Et puis, il y a aussi des interdictions de consommer de l'alcool dans les locaux, ou des substances, genre, je sais pas, de la cocaïne, du cannabis, des choses comme ça, d'amener des armes, que ce soit des armes blanches, comme on dit, ou des armes à feu. C'est le minimum aussi. Et puis aussi des sorties loisirs, on a fait aussi des sorties de visites de châteaux, en Périgord il y en a pas mal, des châteaux, des sorties pique-niques, des sorties aussi à l'océan, à la dune du Pilat, voilà, ça peut être ça, donc tout ça est allé sur du temps, ça fait des journées bien remplies. L'autre jour il y a le commissariat de police qui m'appelle en disant, on a un mineur non accompagné, vous connaissez hein, les mineurs non accompagnés étrangers qui est arrivé à la gare, est-ce que vous pouvez l'accueillir? Je dis aux policiers, non, on ne peut pas, parce que nous, ici, on ne peut pas accueillir quelqu'un qui vient comme ça de l'extérieur, qui n'a pas, pas d'hébergement pour le soir, parce que nous, ça se fait par mail, par tableau, par orientation, par fléchage, et on sait 8 jours avant qui va arriver, d'où il vient, son histoire et tout ça. On ne fait pas de l'hébergement d'urgence, comme dans un au 115, par exemple, où on accueille des gens sans... de façon inconditionnelle. Là, c'est pas ça du tout. Donc, c'est vraiment l'État qui pilote, qui finance et qui décide. Ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que le temps qui nous est alloué par l'État n'est pas suffisant pour que les gens s'intègrent correctement dans notre tissu social. C'est qu'on n'a pas de problème de comportement dans la ville avec les migrants qu'on accueille aujourd'hui, et avec la police et tout ça, que ça se passe plutôt bien. Voilà. Qu'il y a plus de soucis avec d'autres... d'autres personnes dans la ville que les migrants, parce qu'on entend beaucoup parler de ça, hein. Il y en a partout, c'est à cause de tout va mal. En fait, pas tant que ça quand même.
On la fit attendre sur le quai, au pied du monstre endormi. Les camionnettes ne cessaient d'arriver. Il en venait de partout, déposant leur chargement humain et repartant dans la nuit. La foule croissait sans cesse. Tant de gens, tant de silhouettes peureuses qui convergeaient vers ce quai, des jeunes hommes pour la plupart, n'ayant pour seule richesse qu'une veste jetée sur le dos. Elle aperçut également quelques familles et d'autres enfants, comme le sien, emmitouflés dans de vieilles couvertures. Cela aussi la rassura. Elle n'était pas la seule mère. Elle trouverait de l'aide si elle en avait besoin. Tout le monde parlait à voix basse. Les passeurs avaient donné des ordres, il fallait se taire. Mais dans l'excitation du départ, les hommes ne pouvaient s'empêcher de murmurer. Des langues inconnues bruissaient dans la foule, il y avait là de tout, des Irakiens, des Afghans, des Iraniens, des Kurdes, des Somalis, tous impatients, tous possédés par un étrange mélange de joie et d'inquiétude.
Ces deux premières rencontres ne résumaient pas tous les moyens mis à disposition pour les demandeurs d'asile. Afin d'approcher un autre point de vue, nous sommes partis à la rencontre de Pal Zhang, vice-président de l'association Maison 24, dont l'action est initialement l'aide alimentaire et qui a développé une multitude d'autres types d'aides en direction des immigrés.
Moi, je suis Pal Zhang, je suis le vice-président de l'association La Maison 24, qui est une association dont le but principal est de faire de l'aide alimentaire. Elle existe maintenant, ça va bientôt faire 6 ans en mars, ça fera 6 ans qu'elle existe sur Périgueux. À l'origine, on faisait de la distribution uniquement dans la rue pour le public de la rue. Et aujourd'hui, on a un local, comme vous pouvez le voir, de presque un peu plus de 400 mètres carrés. On reçoit plus de 200 familles ici au local. Alors on continue les distributions dans la rue, trois fois par semaine. Pour le public de la rue, et ici dans les locaux, c'est plus pour un public un peu plus en insertion. Et justement, les migrants les reçoivent ici aussi au local. Ça fait à peu près 3 ans qu'ils ont commencé vraiment à arriver en masse, on va dire, sur Périgueux. Il y en avait un petit peu avant, puisqu'il y avait déjà le CADA France Terre d'Asile. Aujourd'hui, il y a 3 CADA à Périgueux. Aujourd'hui, on doit avoir à peu près quand même, je dirais, une bonne dizaine d'étrangers dans l'association qui travaillent en tant que bénévoles. Et le public qu'on reçoit, je dirais qu'aujourd'hui, 60% c'est des étrangers, en fait. Ouais. Bon, moi, je suis vice-président et je suis là tout le temps et j'organise un peu tout derrière. On offre des cours de conversation en français, on a choisi de les appeler comme ça, 2 fois par semaine, les mardis et les vendredis, dans nos locaux. Par exemple, ici, on a quelques étrangers avec nous qui parlent très bien le français, mais qui ne l'écrivent pas du tout. Ou pour qui écrire, c'est très difficile parce que, par exemple, dans le cas d'un Soudanais qui est bénévole à Maison 24, et qui écrit de droite à gauche et pas de gauche à droite. Et écrire le français, c'est très compliqué pour lui. Bonjour Jacques.
Oui.
Bonjour, ça va bien? C'est Pal Zhang de la Maison 24. Pal Zhang pour la Maison 24. Oui. Et je t'appelais en fait parce que j'ai un jeune Libérien qui était au CADA France Terre d'Asile, qui a quelques petites difficultés psychologiques. Et qui a été refusé en CNDA et qui du coup il est complètement perdu parce que lui il a quelques complications quand même psychologiques on va dire pas sérieuses mais quand même qui le rendent sa situation d'autant plus difficile je dirais et donc il est un peu isolé, il a besoin maintenant d'être assisté un petit peu il a pas du tout idée de ce qu'il faut faire maintenant sa prochaine étape pour lui s'il en a une . Donc moi, je lui ai conseillé évidemment d'aller te voir, toi ou Hélène. Il a pas 30 ans, je pense. Ouais, moins de 30 ans. Et il parle un petit peu le français, mais il parle très bien anglais, évidemment, puisqu'il est du Libéria. Ouais. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai donné l'adresse, vos numéros de téléphone à tous les deux, et je lui ai dit de passer jeudi après-midi. Ouais, et il a une amie angolaise avec lui qui lui avait déjà parlé de vous, donc je pense qu'elle va l'amener si c'est difficile pour lui. Bon, on avait pris contact déjà avec le France Terre d'Asile avant 2015, je pense qu'on a dû prendre contact avec eux, mais c'était vraiment très très ponctuel et occasionnel. Ça a dû être après l'été 2015, Et là, c'est la création qui a vu la création donc de deux CADA, et donc qui a fait plus que tripler le volume de migrants sur Périgueux. Quoi. En fait, le seul critère qu'on regarde par rapport, c'est pas une question d'être étranger après ou pas à la maison 24, c'est de toute façon nous on regarde les revenus. C'est-à-dire que c'est très rare qu'on refuse d'aider une personne ici, et pour les migrants, a priori, les seuls qu'on ait pu refuser, c'est des réfugiés qui sont finalement bien installés, qui n'ont pas besoin de notre aide. Mais c'est très rare qu'ils se tournent vers nous de toute façon. Mais autrement, pratiquement, balement. Alors, il faut savoir qu'on distribue à peu près 120 tonnes de nourriture à l'année. On est à peu près aux alentours de 2 tonnes par semaine distribuées. Le 25 décembre, chaque année, on organise un goûter de Noël avec Père Noël, enfants, cadeaux, gâteaux, tout ça. Et c'est vrai que là, pour le coup, on a pratiquement plus d'une quarantaine de nationalités différentes qui se retrouvent quand même pour cet événement. Et c'est le 25 décembre. Il y a beaucoup de monde. Bah, en fait, on est plus de 300 pour Noël. Bah, on fonctionne pratiquement essentiellement qu'avec des dons privés. Hein. On a très peu de subventions publiques. Hein. Alors, l'association La Maison 24, j'aime bien préciser, est laïque. Hein. Mais il se trouve qu'en fait, l'instigateur de la chose, on va dire, c'est un lama tibétain qui vit en Dordogne depuis les années 70 et qui a incité un peu cette opération initialement au Portugal il y a maintenant presque 20 ans et qui donc a mené à la création d'une association qui s'appelle CASA, pareil la maison, hein, au Portugal et qui aujourd'hui au Portugal est sur tout le territoire portugais. Hein. Ils sont dans, je crois, 12 villes principales, ils ont plus d'un millier de bénévoles, ils s'occupent de milliers de personnes. En fait, le tout début de l'association, les premiers mois, hein, ce n'était que des bouddhistes en fait dans cette association. Moi, je suis bouddhiste. Et donc, c'est un peu lié à cette initiative en fait de ce lama tibétain. Et moi, j'avais jamais fait ça. Hein. J'ai jamais fait de social de ma vie avant ça. Quoi. D'un point de vue, là, je dirais bouddhiste, ça me permet de vraiment vivre pragmatiquement quelque chose qui resterait plus du point de vue mental ou théorique, c'est-à-dire vraiment d'être là pour son prochain, voilà, de manière inconditionnelle, on va dire. Il n'y a pas de condescendance, on est vraiment là à niveau d'égalité, c'est un peu ça que moi j'ai essayé d'introduire dans cette association, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est nous qui les aidons, demain on ne sait pas. Demain, ce sera peut-être moi le bénéficiaire. Tant qu'il y en a besoin, moi je serai là. Quand il n'y aura plus besoin, ben, moi j'espère. Hein. Moi, depuis le début, j'attends de mettre la clé sur la porte. Mais bon, malheureusement, l'association ne fait que grandir. Et bon, je ne me leurre pas. Hein. Je vois bien que la situation en France ne s'améliore pas. Donc, il n'y a pas de raison qu'on arrête, malheureusement, d'ici demain. C'est une association qui est vraiment très dynamique, qui est encore très vivante, qui se développe. D'une certaine manière, d'essayer au maximum de dédramatiser un petit peu avec eux leur situation et de les rendre... de rendre en tout cas leur nécessité à venir chez nous le plus agréable possible. Je répète sans arrêt aux bénévoles, hein, c'est pas ce qu'on fait qui compte. Ce qui compte, c'est comment on le fait. C'est ça le plus important. C'est ça qui donne l'identité de la Maison 24. Ce qu'on fait, il y a plein d'autres associations qui le font et qui le font très bien. Mais comment on le fait, je pense que ça, c'est quelque chose qui nous appartient. Au niveau des médias, on nous a montré ça comme si c'était une invasion tout d'un coup. Ils sont des milliers, ils vont ange le parler des Français, ils vont qu'à... Je veux dire, faut arrêter, quoi. Au niveau de l'administration française, moi, si j'avais quelque chose à leur reprocher, c'est un gaspillage monstrueux de biens et des finances. Il y a un gaspillage monstrueux. L'argent est mal versé, mal utilisé. Je pense qu'il y a des gens qui sont sous-payés, d'autres qui sont payés à faire rien foutre. Enfin, il y a vraiment un besoin d'une réforme monstrueuse en France. Et les gens sont broyés au milieu de tout ça. Et les migrants avec. Qu'on arrête avec les migrants viennent manger le pain des Français. Les Français ont mangé le pain des migrants en allant manger chez eux pendant des décennies. Faut peut-être arrêter là, quoi. D'ailleurs, si la France est aussi riche aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'elle a quand même pillé l'Afrique pendant de nombreuses décennies, hein, voire siècles. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir si tous ces Français, ils aimeraient bien être forcés d'aller vivre dans un autre pays aussi, quoi. Personne n'a envie d'être forcé d'aller quitter son pays. Personne ne vient par plaisir. Parce que ouais, c'est l'Eldorado la France, faut arrêter, hein. C'est pas l'Eldorado la France. Et je pense que beaucoup des migrants, ils s'en rendent bien compte aussi. Hein. Quand je vois l'accueil qu'on leur fait en France dans beaucoup de villes quand même, c'est pas l'Eldorado. Et je pense que beaucoup de gens qui parlent beaucoup de ça n'ont pas encore rencontré des migrants et écouté leur histoire. Quoi. Parce qu'il y a quand même des drames assez terribles à lesquels on se retrouve confrontés ici. On demande à tous ces gens de s'intégrer, mais l'intégration, ça marche à deux sens. C'est-à-dire que pour s'intégrer, il faut bien qu'il y ait un milieu qui veuille bien nous accepter aussi.
Je suis pas sûr que la France soit le milieu encore le plus... Bon, ça veut pas dire, hein. Et je pense qu'il y a beaucoup d'expériences superbes en France et qu'on en parle très peu. Et qu'on médiatise beaucoup plus des désastres comme Calais et tout ça. Et les désastres à Paris ou ici, des surpopulations. Et moi, je pense que c'est très important aussi de... D'aller vers eux, de les rencontrer et de vraiment de faire... L'effort, il va dans les deux sens. De vraiment, il faut qu'ils fassent l'effort, eux aussi, de s'intégrer. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais il faut les prendre par la main aussi. Et de façon à éviter, justement, la ghettoisation. C'est ma façon à voir les choses. Hein. Donc, voilà. Il y a une prérogative de Paris, avec des financements, pour donc dispatcher les migrants sur toute la France. Une ville comme Périgueux en reçoit. C'est pas du tout une action concertée avec les élus locaux, encore moins avec les citoyens de la ville. Et du coup, je crois que malheureusement, au bout de quelques années, ben, la migration, elle est vécue comme quelque chose de... comme une invasion, justement. Alors bon, moi je crois qu'il faut arrêter de se leurrer, hein, que l'effort, je veux dire, on n'est plus dans les 70 ou 80, hein, l'État, il n'y a plus grand-chose à attendre. Hein. Je pense que c'est aux personnes comme nous, hein, citoyens d'une société, de prendre en main les choses. Si on veut voir la société changer, il faut que ce soit nous qui le fassions. C'est des gens qui ont quelque chose à offrir, c'est pas des gens qui sont venus... Il y a des gens qui les vivent un peu comme des sans-suivres, pratiquement, qui sont venus carrément vivre à notre crochet, quoi. Je pense que c'est ça, c'est la rencontre, c'est l'éducation, de toute façon. Le changement des sociétés, il ne vient que pour l'éducation. Moi, je crois plus à la révolution. J'y croyais avant, mais j'y crois plus. Je pense que l'éducation, ça vient que par l'éducation. Et c'est vous, hein. C'est votre génération, c'est plus la mienne, déjà la mienne est déjà trop vieille. C'est par les jeunes. Et je pense qu'il faut des initiatives un peu plus des écoles, justement. C'est vous qui changerez le monde. Les vieux cons qui sont déjà au pouvoir, à part le démolir, ils sont pas en train de faire grand-chose de la vie.
Paul Zhang nous a proposé de rencontrer un des réfugiés qui travaille bénévolement à la Maison 24. Jusque-là, nos visites dans les CADA ne nous avaient pas permis de rencontrer un demandeur d'asile. Nous étions alors surpris et heureux de pouvoir enfin discuter avec l'un d'entre eux. Mohamed nous a un peu raconté son histoire.
Bonjour, d'abord je le dis bonjour. Je m'appelle Mohamed, je viens d'Afghanistan. Depuis plus qu'un an, j'ai travaillé bénévole à la Maison 24. Et c'est tout. Voilà. 9 mois que j'habite en France.
D'accord, ok.
Oui.
Et vous êtes arrivé ici
Non, directement je suis arrivé à Paris. Et après je t'ai transféré à Périgueux. Depuis un an, 5 mois que j'habite à Périgueux. 4 mois j'habitais à Paris. Moi je ne peux pas dire en ce moment qu'il y a beaucoup de problèmes en Afghanistan. C'est pour ça que j'ai quitté mon pays. Et que je suis arrivé d'ici. Il y a de beaucoup de problèmes, comme je dis. Tout le monde il connaît ce qui s'est passé en Afghanistan. Il y a beaucoup de guerres chez moi. Quand je suis arrivé à Périgueux, j'ai demandé à mon assistant social, je voudrais travailler, il n'y a pas importe pour moi que j'ai gagné l'argent ou pas. Moi, d'abord que je voudrais contacter avec les gens. D'abord que c'est très important pour moi, la langue française. Je voudrais contacter avec les gens pour apprendre le français. Et la deuxième, maintenant je suis jeune, je voudrais... Je l'aide d'autres personnes qui ont besoin d'aide. Maintenant, je suis jeune, c'est pour ça. Je n'aime pas dans ma maison que je resterai toujours à la maison, comme je l'ai fait. Ici, je peux un peu aider pour d'autres personnes. Et je peux... franchement, je suis très content que je travaille avec d'autres, mon collègue, avec le... Monsieur Palexanque. Franchement, je suis très content. Quand je serai tout le jour, toute la nuit, je travaille, moi, jamais, je ne serai pas là, fatigué. Parce que je suis très content. Ils sont très gentils. Oui, moi qui donne une cadet qui est jusqu'à à côté de la part, ou comme dedans.
Toi, t'es au cadet de la part.
Oui, ouais. C'est ça.
Bien, merci beaucoup.
Merci à vous. Enchanté. De vous connaître.
Et puis bonne continuation.
Merci, à vous aussi.
À l'issue de ces rencontres, nous étions très satisfaits d'avoir choisi de traiter ce sujet, mais aussi déçus de ne pas avoir eu un contact plus poussé, notamment à l'association Maison 24. Notre avis sur la question n'a pas réellement changé, il est plus fondé. Notre démarche nous a permis d'humaniser cette problématique. Nous avons constaté un manque de moyens, et en prenant l'exemple de Périgueux, l'aide repose partiellement sur la bonne volonté et le bénévolat de certains. Au vu des déplacements migratoires des prochaines années, plusieurs questions restent en suspens. Est-ce que les conditions d'accueil seront plus favorables? Est-ce que les politiques publiques anticiperont réellement cette situation ? Est-ce que des critères moraux s'inviteront dans cette problématique ?
Nous tenons à remercier le centre d'accueil de demandeurs d'asile de Périgueux, le centre d'accueil et d'orientation de Bergerac, l'association Maison 24 et Thierry Chollet.
Extrait littéraire tiré du livre de Laurent Godet, Eldorado.
Musique, Ismaël Saint-Rémy.
L'accueil des réfugiés en Dordogne, réalisé par Élie Ferrer, Lucien Bondonneau et Louis Toulmont.